Hey, j'ai faim.
Ah ouais, hey, on pourrait se commander de la pizza. Alors, je connais une super bonne pizza. Elle est vraiment prisée. Ça vient d'Italie. Elle est faite avec du caviar, du homard, est arrosée de cognac Louis XIII, Rémy Martin. Écoute.
C'est combien?
Environ 11 200 $.
Donini, ça te tente-tu?
Bienvenue à Dans le champ lexical, l'émission qui choisit un mot chaque semaine et qui vous en parle, en long mais surtout en large, pendant une heure, à grands coups de reportages, vox pop, chansons, thèmes de chansons et histoires. Le mot chanceux de cette semaine sera... budget!
Avant le mot budget, il y avait dans un dictionnaire de 1694 le mot bougette.
Bougette, petit sac de cuir que les petites gens portent en voyage.
Et avant le mot bougette, il y avait, dans un dictionnaire de 1606, le mot bouge.
À présent, on appelle bouge ces deux gibecières que les marchands allant au champ portent et qui pendent de l'arçon à l'arrière de la selle. On appelle aussi bouge les étuis de gros cuir dans lesquels la vaisselle d'argent est portée sur un cheval d'un grand seigneur qui va par les champs et en voyage.
Le mot bougette fit un petit séjour chez les Anglais où il devint budget et prit le sens spécial de bourse du roi du trésor royal. Le français se réapproprie le mot budget dans les premières années du 19e siècle. Il désigne alors les dépenses et recettes de l'État. Bien évidemment, il s'est aujourd'hui étendu à bien plus et on peut donc faire le budget d'un commerce ou d'une famille. Le budget, c'est décider combien d'argent on dédie à notre logement, à la nourriture, à nos REER, combien va aller aux acomptes provisionnels et à nos investissements de...
Ça va, Mathieu? T'as vraiment l'air blême.
Ah oh non, je me sens vraiment pas bien. Ah,
moi non plus. Parler budget, ça me fait vraiment pas... Quand on parle d'organiser l'argent pis tout, je deviens complètement irraisonnable.
Je pense qu'on est trop émotif face à l'argent, Joanie.
Ah oui?
Mais oui, mais on n'est pas seul.
Ah non?
Non, écoute ce que nous dit l'économiste Yannick Marcil.
De toutes les manières, on est émotionnel face à l'argent. Je pense que la figure de l'avare, que ce soit dans notre Séraphin national ou n'importe quelle figure mythique de l'avare, c'est pas un être rationnel, l'avare. Donc l'avare est complètement irrationnel face à l'argent. Mais c'est aussi vrai du trader qui cherche à s'enrichir, à faire un bon coup sur les places financières. C'est pas un désir rationnel de protéger sa retraite. La plupart de nos rapports à l'argent sont purement émotifs et irrationnels. Et je porte pas de jugement par rapport à ça, je pense que c'est un fait. Et l'effort d'épargne, entre guillemets, est, comme je viens de le dire, un effort. Et donc, ne fait pas partie de la sphère du plaisir. C'est un effort comme faire sa fucking lavage ou comme travailler les bouts de plate quand on travaille. Ou bon, bref, ce qu'il faut faire dans la vie parce qu'on n'a pas le choix de le faire, c'est de la même sphère. Donc, essayer de trouver 56 raisons, 56 façons de contrer ça m'apparaît complètement futile. T'sais.
Hein? Est-ce que l'économiste Yannick Marcil vient de me dire que si j'arrive pas à suivre mon budget et à économiser... C'est pas de ma faute!
Disons que Yannick Marcil, économiste, a plutôt dit que c'est humain d'avoir de la difficulté à être rationnel avec l'argent, et surtout à notre époque.
Il faut faire bien attention en disant que les gens sont irrationnels et ont des comportements irresponsables face à l'argent. C'est quand on leur pousse la possibilité, c'est comme pitcher un enfant dans un magasin de bonbons. Là. C'est pas infantiliser les gens de dire ça. C'est juste une réalité tout à fait humaine. Je veux dire, si... La banque te permet d'avoir la maison de tes rêves pour avec à peu près rien d'effort, là. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de passer 10 années de travail pour accumuler de l'argent pour enfin l'avoir. Elle te permet de l'avoir tout de suite. Mais ma foi, du bon Dieu, c'est juste naturel de dire oui puis de signer en bas de la page. T'sais. Par contre, les conséquences sont immenses. C'est que là, les taux d'endettement sont catastrophiques. Jumelons ça, je continue en économie, là, jumelons ça à des taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi bas depuis 40 ans, donc depuis que nos grands-parents ont acheté leur maison ou presque. Donc, ils ne nous rapportent strictement rien de déposer notre argent à la banque. Bien, les deux conjugués, c'est comme t'as plein de bonbons qu'on te donne gratuitement, puis si tu veux épargner, ben on te donne rien pour. Mais qu'est-ce que je te dis? C'est juste le comportement de gens qui sont pas si irrationnels que ça. C'est assez rationnel de dire, avec le boulot que tu fais, le 40 000 que tu gagnes chaque année, tu peux avoir ta maison tout de suite, puis avoir un niveau de vie intéressant et dont tu rêves pour toi puis ta famille. Je ne considère pas ça particulièrement irrationnel de dire oui à cette proposition-là, tu comprends?
Donc, Yannick Marcil, l'économiste, dit que le monde est contre nous.
Un peu, mais tu sais, des niaiseries avec l'argent, même les gens les plus rationnels peuvent en faire.
Sous George Bush père, à un moment donné, il est président donc, des États-Unis, il fait un discours relativement léger, puis il fait juste dire que sa femme l'a chicané parce qu'il ne mangeait pas ses brocolis, il dit « j'aime pas ça les brocolis ». Quelques heures ou le lendemain après son discours, la valeur des brocolis sur la bourse de Chicago chute à cause de cette déclaration du président. Le président de l'Association des agriculteurs ou même peut-être des producteurs de brocolis, je me souviens plus trop, des États-Unis, fait une conférence de presse en disant que c'est inacceptable que le président des États-Unis ait dit ça du brocoli. Le président a été obligé, avec le sourire en coin, je dois lui donner ça, de se rétracter un peu en disant « ben non, mais là, c'est juste moi, c'est moi ». Enfin bref, tu peux voir l'absurdité de la chose, là. Cet événement absurde démontre l'absurdité continuelle de ce genre de réaction-là, c'est-à-dire que les courtiers sur ce parquet-là ont tous entendu ça, se sont dit « oh, ça va peut-être être mal reçu dans les médias où les gens en général vont peut-être penser que le brocoli, c'est plus bon ». Donc, ils sont mis eux-mêmes dans leur tête à spéculer, à dire « peut-être que c'est pas bon ». On va juste se prémunir contre ce qui pourrait arriver. Donc, on va protéger nos intérêts, ceux de nos clients. On vend nos prises de position sur le brocoli qui va être vendu dans 2 mois, admettons, là, et le prix du brocoli a chuté. Est-ce que les courtiers qui ont fait ça sont de parfaits idiots? Non. Ils ont obéi à une règle très simple qui est celle d'un marché financier où on essaie de prévoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain pour protéger l'avoir de nos clients. Mais ça démontre comment des décisions individuelles très, très, très rationnelles donnent un résultat complètement absurde et loufoque et complètement irrationnel du point de vue de la société.
Gagne l'argent français. Pas facile. Gagne l'argent français. français. Pas facile, gagner l'argent français. Bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français.
Jeune femme en charge d'un budget, écoutez Chloé Barry vous lire les sages conseils d'André Sylvain, tels que publiés en 1902 dans le livre « La vie après le pensionnat ».
Si on permettait à une jeune fille de demander ce qu'elle désire et ce qu'elle croit le plus utile à sa nouvelle position de maîtresse de maison, certainement elle ne penserait pas au cadeau que fit Voltaire, vieux et souffrant, à sa nièce qu'il appelait Belle et Bonne et que, quelques jours avant de la fiancer, il fit appeler près de son fauteuil de malade. Le vieillard lui remit un beau livre, relié en maroquin. Ce n'était ni Zahir, ni Tancrède, ni aucune de ces œuvres auxquelles il devait sa gloire. C'était un livre composé de feuillets blancs sur la première page duquel il avait écrit « Livre de dépenses de Madame la Marquise de Villette ». Elle parut surprise et le vieillard lui dit « Ma chère enfant, je n'ai rien à vous apprendre sur la manière de vous faire aimer, mais je vous dirai qu'une femme qui veut être considérée dans sa maison doit veiller sur ses dépenses et tenir ses comptes. » Un oncle encore, prévoyant lui aussi, remit à sa nièce, qui l'installait dans son domicile, un registre divisé en plusieurs parties, indiquant chacune les recettes et les dépenses qui peuvent se faire dans une maison. Sur la première page, on lisait ces mots. L'économie est la source de l'indépendance et de la libéralité. À la partie des frais de table, on lisait « L'homme sage a toujours trois cuisiniers qui assaisonnent les plus simples mets, la sobriété, l'exercice, le contentement de lui-même. » Au chapitre des bonnes œuvres, « Donne comme si tu recevais. Tout ce que tu donnes est inscrit comme un placement de tout repos, le taux d'intérêt n'est pas indiqué, dans le grand livre du bon Dieu. »
N'est pas déjà tombé sur un objet « made in Japan ». Probablement pas un occidental, parce que la fameuse appellation d'origine contrôlée se trouve aussi bien sur une paire de souliers que sur un aimant à frigo de la Saint-Jean-Baptiste. Le Japon était jusqu'à tout récemment la deuxième puissance économique mondiale. Voici donc un très bref historique de l'économie récente du Japon. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on parle du « miracle économique » au Japon. C'est le nom qu'on a donné à la forte expansion économique et culturelle du Japon de l'après-guerre. Parce que, bon, disons-le, pendant la guerre, le Japon a commencé à s'illustrer mondialement parce qu'il était, dans le coin de la guerre de Corée et il se faisait pas mal occuper son archipel par les Américains. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon fournissait les armes à l'armée et a fini par se développer une expertise dans le domaine de l'électronique, de l'optique, de l'innovation et de l'industrialisation. Dans les années qui suivent, le Japon peut fièrement se promener le PNB à l'air et observe une croissance faramineuse. En 1968, le Japon se hisse au deuxième rang d'une puissance économique mondiale. Après plusieurs remous, population vieillissante, bulle spéculative, une dette publique très imposante et finalement le tsunami, le Japon a fini par perdre sa deuxième place dans l'économie mondiale aux mains de la Chine en 2011. Maintenant qu'on connaît un peu, mais un peu mieux, la situation économique du Japon et son histoire, il est intéressant de se demander quelles relations ont les Japonais avec l'argent et comment est-ce qu'ils gèrent leur budget. J'ai rencontré Sylvain Sarrazin, qui est allé quelques fois au Japon pour faire des voyages de presse et qui a remarqué différentes choses sur le mode de vie des Japonais face à l'argent.
Le Japon, c'est un pays de consommation effrénée. C'est, on dépense sans regarder, sans compter. L'argent est vraiment utilisé pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire pour être dépensé. Puis, les Japonais investissent massivement. Si tu vas dans un bar ou dans un restaurant avec un Japonais, souvent, il va commander beaucoup plus que nécessaire, sans penser à ce que ça va lui coûter ou à la note qui va lui arriver sur la tête à la fin. Les Japonais font assez peu leur épicerie. Ils vont surtout manger au resto, parce que souvent, ils n'ont pas le temps d'aller cuisiner ou quoi, donc ils préfèrent aller au resto. petit resto de quartier, c'est toujours rempli à ras-bord le soir. Je connais pas mal de Japonais qui, à la fin du mois, là, c'est banqueroute parce qu'ils ont tout dépensé. On dirait qu'ils peuvent pas s'empêcher. Ce qui est très étonnant au Japon par rapport à l'argent, c'est que le Japon est un pays extrêmement moderne avec plein de bébelles électroniques, plein d'équipements super modernes. Puis je me serais attendu à ce que l'argent soit complètement dématérialisé, qu'ils aient des systèmes de, je sais pas, de puces électroniques pour payer ou quoi. Mais non, c'est un des seuls éléments archaïques qui reste, c'est... Personne n'a de carte de crédit, tu payes tout en argent comptant, puis les Japonais se baladent avec des liasses de billets entières sur eux. C'est vraiment surprenant dans un pays aussi moderne qu'on utilise encore ce vieux moyen qui est juste un bout de papier pour payer tes achats, surtout quand tu fais des gros achats comme au Japon.
Ça doit être inquiétant quand même d'avoir tout le temps plein d'argent comme ça, c'est sur toi, alors que t'es pas dans ton pays.
Ben non, parce que... Le Japon, c'est un des pays les plus sécuritaires au monde. Là. Il ne peut rien t'arriver. Là. Il ne peut rien t'arriver. Donc, je pense aussi que c'est ça qui encourage aussi les gens. Là.
Les gens, ils ne volent pas, ils ne volent pas
en plus. Non, c'est, je pense que c'est un des plus bas taux de criminalité au monde.
Au Japon, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on magasine et qu'on se fait donner le change de son argent.
Le journaliste Nicolas Ritou, qui est aussi allé au Japon, en a retenu un tout autre détail.
Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont une telle politesse dans leur vie de tous les jours. Et évidemment, dans le commerce, il y a une notion de service épouvantable qui va jusqu'au bout des petits détails. Et ça, c'en est un. Parce que lorsqu'ils te rendent ton change, ils mettent leurs mains l'une sur l'autre, paume vers le haut, un peu en creux, évidemment en se courbant un petit peu, comme dans chaque geste de politesse, et ils te le rendent comme si c'était une offrande extraordinaire, et t'es quasiment gêné de le prendre, là. Il y a comme une espèce de c'est tellement officiel et rituel et beau, là. T'es quasiment gêné de reprendre ton argent, là, finalement.
Mais comme mentionné plus tôt, la réalité est maintenant différente au Japon. Avec le tsunami, l'économie et l'industrie vont de mal en pis. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose pour les Japonais et leur façon de dépenser et de gérer leur budget?
Je pense que le tsunami, ça va changer un peu cette donne-là, de consommation effrénée puis de dépenser sans compter. Mon amie japonaise m'écrivait la semaine dernière que... Ça faisait deux fois qu'elle me disait ça, d'ailleurs. Maintenant, il doit faire beaucoup d'économies d'énergie, vraiment se rationner au niveau de l'énergie. Puis ils n'ont vraiment pas l'habitude de ça. Puis ils me disaient, tu sais, nous les Japonais, on consomme et on gaspille beaucoup trop. Puis on n'a pas le choix de faire des économies. Puis ça change pas mal notre quotidien. Comme les Japonais, c'est un peuple très... un bon sociologiste dirait très holiste. C'est-à-dire que la société elle-même compte plus que la somme de ses membres. Donc, c'est une société qui est extrêmement soudée, puis l'individu ne vaut quasiment rien, alors que la société, le bien commun, vaut plus que chaque individu.
semaine, ici Sonny Duval. Je vous chante une chanson qui s'intitule « Budget ». Je n'ai aucune idée combien je possède en ce moment. Je n'ai absolument rien dans les poches. À ma déficience, je ne vois aucun remède. À cette tendance qui fait que je dépense systématiquement tout l'argent que l'on dépose dans mes poches dans le bistrot le plus proche. Est-ce que quelqu'un voudrait seulement prendre une petite minute pour m'expliquer en quoi consiste exactement ce mot budget? Il paraît qu'il pourrait m'être d'un grand secours, budget. Je me demande bien ce qu'il veut dire, budget. Comment fait ton budget? Pour ne pas tout donner à des chanteuses de cabaret, budget. Quelle est la définition de ce mot, budget? Budget. B-U-D-G-E, budget.
En Thaïlande?
Bon, en Thaïlande, ça vit beaucoup du tourisme. Donc, je ne sais pas s'ils font ça entre eux, mais en tout cas, avec les étrangers, les phalanges, sans aucune gêne, lorsque tu jases avec eux, lorsque tu tombes sur des Thaïs qui parlent correctement anglais, ce qui est plutôt rare, malheureusement, mais ils ont tendance tout de suite à te demander les choses que tu portes sur toi, là, combien ça coûte, combien t'as payé ça, même s'il fait 35 degrés et que tu portes rien de bien cher, là, parce que t'es tout en sueur, anyway. Mais il y a ça, puis deuxièmement, combien tu gagnes dans la vie. Alors vraiment, aucun problème avec ces choses-là qui sont supposées être un petit peu plus indiscrètes dans notre culture, là. Ça, c'est on parle de ça librement, là-bas, là, c'est comme...
Jeune femme en charge d'un budget, écoutez Chloé Barry vous lire les sages conseils d'André Sylvain, tels que publiés en 1902 dans le livre « La vie après le pensionnat ».
Un livre de compte entre peu à 7 heures dans les cadeaux qu'on fait à une jeune fille quand on l'installe maîtresse de maison et cependant, ne serait-il pas nécessaire? Quand on n'inscrit pas régulièrement ses dépenses, toutes ses dépenses, on se laisse aller à une foule de désirs qui créent des besoins factices, besoins impérieux qui portent à des dépenses... bientôt regretté. C'est un sou, deux sous, c'est une somme insignifiante, mais à la fin du mois, ces petites dépenses font un total quelquefois important. Quand on s'oblige à marquer toutes ces dépenses, les plus minimes, on comprend la valeur d'un sou. On sait à quoi on peut l'employer utilement. On attend l'heure de l'employer. La personne qui compte n'est jamais prise au dépourvu. Elle sait se procurer un plaisir à elle-même et au sien, et ce plaisir ne nuit à rien. Un livre de dépenses habituellement ouvert sur la table de la chambre où la jeune fille vient tous les jours écrire les dépenses et les recettes de la maison est un conseiller fidèle. Écoutez ce qu'il vous dit. Avant de rien acheter, demande-toi, est-ce nécessaire? Si oui, achète tout de suite et écris ton achat. Sinon, alors même que cet achat te semblerait utile, attends jusqu'au soir, ou mieux, jusqu'au lendemain. Bourse pleine rayonne la joie, bourse vide rayonne la tristesse. Ne dépense pas l'argent que tu n'as pas. Une dette est un clou qui s'enfonce toujours davantage en engrandissant la déchirure. Ordre, économie, propreté sont la source de la prospérité d'une maison. Jamais de dette. C'est la source de la paix, de la joie et de la bonne entente dans un ménage. C'est la première résolution à prendre par une jeune fille au jour de son installation comme maîtresse de maison. Ne te laisse pas prendre à la facilité que t'offrent si gracieusement les marchands de les payer plus tard et quand tu voudras. Résiste énergiquement à ces achats de toilettes qui aiguillonnent la jeunesse et miroitent autour de son imagination, la persuadant qu'elle sera plus belle et plus attrayante. Ne t'encombre pas de futilité. Vois dans tes armoires, dans ces boîtes, au fond de ces tiroirs, vois sur ces étagères que d'inutilité, fanées par le temps, encombrantes et démodées. Ne va pas, sans besoin réel et encore, visiter par simple curiosité, les étalages où courent toutes les jeunes filles. On n'en sort jamais sans avoir dépensé beaucoup, beaucoup d'argent, sans avoir au moins laissé pénétrer dans son imagination des désirs qui la troublent. Le sage se fait une vie heureuse en la remplissant de petits bonheurs. L'étourdi se fait une vie malheureuse en la remplissant de petites dettes, résultat de petites dépenses inutiles.
Vous êtes toujours à l'écoute de Dans le champ lexical. Et cette semaine, le sujet chaud, c'est budget.
La question d'argent. Attention, madame. Combien d'argent perdez-vous si vous ne répondez pas correctement à la question?
25 piastres?
Non, madame. C'est 50 $ que vous perdez.
Oh, non. Il faut que je vous envoie 50 piastres, là?
C'est ça, madame.
Je peux-tu vous faire un chèque?
Pas de problème, madame.
Merci.
Meilleure chance la prochaine fois.
Vous aussi.
La question d'argent, tirée du disque Rémi A.M. F.M. de Paul et Paul.
Rémi A.M. F.M., lâche pas la patate!
Est-ce que nos chanteurs sont de bons gestionnaires de budget? Une chose est sûre en tout cas, ils semblent avoir un rapport bien souvent trouble avec les finances, ou alors ils aiment bien s'imaginer ce que ça serait d'être riche. En 1959, Barrett Strong, un chanteur Motown, compose et enregistre Money, That's What I Want, une chanson qui sera reprise quelques années plus tard par un certain groupe baptisé les Beatles. On y entend que l'amour, c'est peut-être bien beau et ça peut donner de bien beaux thrills, mais au bout du compte, c'est pas ça qui paye les billes. The best things in life are free, but you can keep them for the birds and bees. Now give me more. Dans la chanson traditionnelle La banqueroute, le chanteur raconte, on s'en doute, qu'il a dû déclarer faillite. Pour s'en sortir, il doit vendre tour à tour sa chemise, son violon, ses souliers, sa jument, sa cruche et sa flûte. Sinon, on se souvient peut-être que dans les années 90, la chanteuse Julie Masse se demandait à quoi peuvent bien rêver les millionnaires la nuit en solitaire. Hein? Après tout, ils roulent sur de l'or et ils font des sous même avec les guerres.
Quand il a besoin d'ivresse, il se fait des maîtresses, il se garde de crédit.
Le groupe suédois ABBA a connu un gros succès dans les années 70 avec la chanson Money, 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 dans laquelle la chanteuse se plaint qu'il ne lui reste plus un rond en poche après avoir payé les comptes, et ce malgré le fait qu'elle travaille toute la journée. Elle se demande ce que ce serait d'être riche ou mieux encore de marier un homme riche pour se faire vivre. Un beau plan de rêve.
Money, money.
Mais dans le champ lexical, a choisi aujourd'hui de se pencher sur la chanson « L'argent ne fait pas le bonheur » d'un groupe français des années 60 qui s'appelle Les Parisiennes. Vous vous souviendrez certainement de cette chanson-là si vous jetez parfois un coup d'œil à votre téléviseur parce qu'on l'a entendu dans une pub télé de la Monnaie Royale il y a quelques années. Alors Les Parisiennes, c'était un groupe constitué de quatre danseuses, oui oui, des danseuses, ce qui explique peut-être la beauté des voix, disons, qui étaient accompagnées d'un orchestre. Elles ont eu quelques autres succès sur des grands thèmes de société, comme « Il fait trop beau pour travailler » et « Il va falloir se mettre au régime ». Si vous portez une attention particulière aux paroles, vous verrez que ça ne peut pas être plus aux antipodes du discours actuel qui met les gens en garde contre les dangers de la surconsommation. Pourquoi? Ben parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus amusant que d'aller choisir des robes et des chaussures dans un magasin, sans oublier la petite cape de fourrure qui vous va si bien. Et puis, si on n'a pas les fonds suffisants, ben c'est pas très grave après tout, hein, on n'a qu'à partir sans payer avec nos achats sous le bras. Fallait y penser. Mais magasiner autant, ça épuise un peu sa femme, vous savez. Alors, les Parisiennes nous informent qu'elles aiment bien aller passer 8 jours dans un palace pour milliardaires, dans une chambre avec terrasse qui donne sur la mer. Et puis tant pis pour les dépenses et ce que le percepteur pourra bien dire. Voici donc les Parisiennes et l'argent ne fait pas le bonheur.
J'avais quel âge quand j'ai eu ma première carte de crédit ou ouais, quand ouais. J'ai commencé à comprendre que j'avais des problèmes de avec l'argent?
Allons-y avec la carte de crédit.
Carte de crédit, je m'en suis procuré une, j'avais 17 ou 18 ans. Peut-être, non, 18 ans. C'était dans le but d'aller en Europe puis de pas être dans la merde là-bas.
Ça a-tu bien été?
Ça a super bien été, je n'ai pas eu de besoin. Alors, mes problèmes n'ont pas commencé pendant le voyage, mais plutôt après.
Et donc, tu es revenu ici, là, on arrive à 18-19, tu rentres au cégep?
Ouais, ça coïncide pas mal avec l'entrée au cégep. Je me suis procuré une voiture qui était une Minoun, une Volkswagen Minoun. Première fois que je l'ai utilisée, c'était pour faire les réparations surprises sur cette belle Volkswagen.
À peu près combien?
Ah, je l'ai rempli assez rapidement. Puis quand un revenu de musicien au cégep, j'arrivais souvent pas à faire mes paiements minimum. Donc déjà, juste une dette de 1 000 $ à cette époque-là, ça me semblait immense puis impossible à gérer et tout. Puis ça a juste continué. J'ai jamais revu le zéro, jamais dans aucun de mes comptes de crédit. Alors.
Puis Simon a, pour ainsi dire, branché sa carte de crédit sur son compte de banque. Chaque fois que le compte de banque arrivait à zéro, plutôt que de faire rebondir le chèque ou de refuser la transaction, la banque la passait directement sur sa carte de crédit.
Mauvaise idée.
Très mauvaise idée parce que je tenais pas mes états de compte, donc je pouvais être à zéro dans mon compte puis aller m'acheter une pinte de lait au dépanneur. Puis c'est ça, donc une transaction de 3 $ qui m'amène un frais supplémentaire de 5 $ parce que j'avais un compte à découvert. À l'intérieur d'un mois, je pouvais faire, je sais pas, une dizaine de transactions avec un compte à découvert, ce qui m'amenait 50 $ supplémentaires. Donc, je faisais pas tellement d'achats à cette époque-là avec ma carte de crédit, mais c'est ça, ça servait à mes réparations surprises sur la voiture et protection de fonds quand j'avais des chèques qui passaient ou que je savais juste pas combien j'avais en banque puis que je m'achetais un sandwich de dépanneur. En fait, c'est des petits achats courants qui me coûtaient 5$ de plus à chaque fois.
Puis c'était rendu jusqu'à où?
Je flirtais toujours avec le maximum.
En ouvrant un autre compte de banque, Simon a reçu une marge de crédit de 10 000 $ qui a fini par remplir elle aussi. Lui qui avait d'abord pris une carte de crédit pour pas être dans Schnout en Europe, le voilà 10 ans plus tard dans la Schnout ici, avec 18 000 $ de dette.
Fait que j'avais, dans le fond, ça me coûtait environ 500 $ de frais à rembourser par an. Mettons 200 pour Mastercard, 200 pour l'autre carte TD, puis un 100 $ par mois pour les dettes d'études.
Par mois, tout ça par mois.
500 $ par mois, puis après ça, le reste c'était pour vivre, là, tu sais.
Il est passé bien proche de la faillite et il est même allé voir un syndic de faillite. Mais par chance, son père a hérité d'un peu d'argent qu'il lui a refilé, ce qui a permis de payer une partie de ses dettes.
Je veux dire quelque chose de vraiment grossier. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta tête, des affaires que tout le monde, ça connecte, puis que toi, ça passe tout droit?
Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais il y a une partie qui s'est créée en plus, là, d'acheteurs compulsifs. La venue de eBay, là, dans ma vie, n'a pas été une super bonne idée. Pour vrai, quand je tombe sur un instrument où je me crée des besoins, bref. Puis quand je navigue sur ces sites-là où est-ce que je peux acheter des trucs super intéressants qu'on trouve pas ailleurs, j'ai comme les papillons dans le ventre quasiment, ça me crée un petit buzz. Puis je me dis, ah ben, écoute, ça passe sur Mastercard, puis je vais pouvoir le repayer le mois prochain, puis il n'y a pas de problème, c'est un petit 200 $, il n'y a rien là. Sauf que des fois, je me surprends à faire comme 2, 3, 4 transactions de 200 $ dans la même journée ou dans la même semaine. Mais après ça, être 2 mois tranquille, là, mais je sais pas ça à tous les jours, là. Mais c'est ça, fait que là, des fois, ma copine est là, puis on reçoit les trucs après par la poste, puis j'y ai caché, parce que j'ai pas tout à fait... je suis pas très fier de ça. Donc, des fois, j'essaye de prendre la malle avant qu'elle arrive, ou de passer à la poste quand je reçois des trucs, puis de les cacher vite dans mon sous-sol ou tout ça, mais elle est probablement pas au courant de tout ce qui se passe dans mon compte. Peut-être moi qui est con, mais j'ai encore l'impression que je maîtrise la situation. Puis ma copine, elle surveille ce que je fais, là. Je suis pas laissé à moi-même. Puis elle agit souvent comme conscience. Puis même quand elle est pas là, je sais que je suis en train de faire quelque chose de mal. Je suis capable de me punir puis de me raisonner moi-même. Mais souvent, j'appuie sur « OK, transaction quand même ». C'est vraiment étrange parce que ça crée vraiment un buzz. Je peux être comme me réveiller dans la nuit pour penser à cette affaire-là. Mettons que j'ai vu un instrument, là je réalise toutes les possibilités que cette affaire-là pourrait m'amener, puis je me justifie en me disant que c'est ma job, donc c'est un outil de travail, donc ça, c'est ça, il y a des affaires qui malheureusement se justifient trop facilement, mais pas avec le salaire que je fais.
La 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 la
En Norvège.
Il y a aussi cette comment dire, cette pratique de bien partager, chacun paye sa note, contrairement à ce qu'on voit par exemple en Europe, en France ou dans les pays latins où.
Parle de couple, disons.
Ouais, par exemple, ouais, dans le cadre de il y a un couple qui va au resto, ça il n'y a pas de problème, chacun paye sa part, puis.
Jeune femme en charge d'un budget, écoutez Chloé Barry vous lire les sages conseils d'André Sylvain, tels que publiés en 1902 dans le livre « La vie après le pensionnat ».
Être généreuse, c'est donner, en se privant volontairement soi-même. Être prodigue, c'est donner, sans penser qu'on se prive. Par la générosité, on retranche un peu de son bien-être pour en faire participer un autre, et c'est un acte méritoire. Par la prodigalité, on retranche du bien-être de la famille pour n'en faire participer que la vanité personnelle. C'est un acte coupable. Tu seras heureuse si, chaque mois, chaque année, au moins, en réglant tes dépenses et tes recettes, tu peux mettre de côté une somme d'argent, quelque minime qu'elle soit, en disant « une part pour l'avenir, une part pour faire du bien autour de moi ». Tu seras heureuse si, en voyant le luxe de tes compagnes, tu peux dire, sans accuser personne, « Ah, que de choses dont j'ai su me passer !» L'argent sorti de la bourse pour soulager une misère ou contribuer à une bonne œuvre n'a jamais diminué la somme totale à la fin de l'année. Il y a une équation ici qui ne fonctionne pas. La dépense faite pour procurer, de temps à autre, une joie, un bien-être, un délassement à la famille ne cause jamais aucune inquiétude et ne diminue pas le budget. Elle augmente l'activité et le dévouement de tous. Le travail fait de bon cœur ne fatigue jamais. Heureux celui qui chante en travaillant. Il y a de gais refrains sur les lèvres qui donnent du ressort aux mains. Il y a de douces chansons dans l'âme qui donnent de la constance à la volonté et des illuminations à l'esprit.
Mon vox pop de la semaine porte sur la question suivante. Mettons que je te donne l'argent, qu'est-ce que tu ferais avec? J'ai posé la question à 10 000 $, 1 000 sans oublier la fameuse question à 100 $.
J'en mets de côté pour m'acheter un genre de condo, quelque chose de même. Puis je me garde un genre 40 % pour voyager puis pour m'acheter des trucs que j'aime.
J'achèterais de l'équipement de production et je partirais ma propre compagnie de production de disques underground.
Peut-être un investissement immobilier ou quelque chose de genre là, mais à peine, mais quand même, 10 000, c'est pas la fin du monde, mais quand même, je pense que je ferais ça. Ou je paierais mes dettes aussi.
J'aide mes parents à financer leur voyage. Je m'achète tout plein de trucs que je veux, puis je mets de l'argent de côté.
Vu que j'ai eu des petits problèmes, puis je recommence ma vie, mais là, je me rajouterais des meubles, tout ça. Je me remeublerais convenablement comme j'étais avant, tout ça.
Avec 1000 $, ben, j'achèterais ce que ça me prend pour au moins partir la business dont je parle, mais à plus petit. Plus petit.
Oh! Ben, je pense que je l'investirais tout.
Ouais. Dans quoi?
Ben genre, je le mettrais dans mes REER ou dans un compte là, pour le garder pour le futur. Là. Cas d'urgence, je sais. Hein?
1 000 $, je le mets à roulette, au jeu noir.
Je pense que je
prendrais une petite partie quand même pour payer un petit peu de mes dettes. Comme c'est pas une tonne, je pense que je me paierais peut-être un petit restaurant.
Je laisse faire mes voyages, j'ai quand même mes parents à financer, puis je mets quand même de l'argent de côté.
1 000 $ dans mon cas à moi, ce serait plus du surplus. J'en profiterais pour m'acheter beaucoup de surplus, que ce soit alimentaire, produits nettoyants, produits d'entretien, etc.
100 $, pas que c'est pas gros, mais c'est moins que 10 000. Mon Dieu, je ferais une réparation quelconque sur un vélo, ou j'achèterais un truc que je m'aurais pas payé ordinairement. Ce serait comme un bonus.
Eh bien, je vais m'acheter du linge.
100 $, peut-être je me payerai un petit restaurant, une petite gâterie. C'est ce que je ferais avec ça.
Ah ben là, je dépense. Je pense que j'irais, je peux faire une bonne soirée dans un resto où j'irais voir un bon show, quelque chose de même. Ouais, là, ce serait facile.
Ah, OK, d'accord. Ben là, je me payerais un bon repas au restaurant avec un petit vin.
un bon souper.
Ben là, avec 100 $, ben, je vais m'acheter du pot, de la bière, du speed, puis du chocolat.
Oh, du chocolat.
You're gonna say you've missed me. You're gonna say you kiss me. You're gonna say you love me. Cause I'm gonna love you too. I don't care what you told me. You're gonna say you hold me. You're gonna say you love me. Cause I'm gonna love you too. After all, another girl to get, but I still can't overlook ya. I'm gonna do my best to hook ya. After all, let's sit and down. You're gonna say you miss me. You're gonna say you kiss me. You're gonna say you love me. Cause I'm gonna love you too. You're gonna tell me sweet things. You're gonna make my heart sing. You're gonna hear those bells ring. Cause I'm gonna love you too. After all, I never get to get, but I still can overlook you. I'm gonna do my best to hook you. After all, let's sit in the house. You're gonna say you miss me. You're gonna say you kiss me. You're gonna say you love me. Cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too.
Pour épargner, il faut avoir une vision du temps qui est complètement abstraite. Je veux dire, un REER, c'est abstrait. L'argent est abstrait à partir d'un montant très, très petit. C'est-à-dire, on peut s'imaginer 5 000, 10 000, voire 50 ou 100 000 $ ce que ça représente en le transposant sur un achat possible. Donc, je ne sais pas, moi, un voyage, une voiture ou une maison, respectivement. À partir d'un certain montant, ça devient comme complètement abstrait. Qu'est-ce que ça... On parle de milliards, là, présentement, qui sont dépensés en infrastructures routières ou le déficit américain qui vaut des milliers, qui vaut plus de 1 000 milliards. Il n'y a personne sur la Terre qui peut se représenter concrètement qu'est-ce que ça veut dire 1 000 milliards. C'est impossible. C'est la même chose un peu pour nos épargnes à très long terme. Qu'est-ce que ça veut dire épargner pour gagner suffisamment, pour avoir suffisamment d'argent à ma retraite dans 30 ans, admettons? Est-ce que j'épargne présentement, moi, les dollars que j'épargne, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter réellement dans 30 ans? J'ai une vague idée que ça va me permettre de ne pas crever de faim puis de ne pas aller à la soupe populaire. On s'entend que ça, c'est bon. Mais au-delà de cette évidence qui est complètement basique, ça devient abstrait rapidement. Alors que la consommation immédiate de ce même dollar-là, de ce même 100 $ que je pourrais épargner, lui, il est
foutument concret. Peu importe ce que ce soit des vêtements, un souper au restaurant, des livres. Si c'était aussi sexy s'acheter de rien que s'acheter de la bière, tout le monde épargnerait. C'est aussi simple que ça.
Hein? Est-ce que Yannick Marcil, économiste de renom, vient de dire que Budweiser devrait se mettre à vendre des REER?
Non, je pense qu'il a vraiment juste dit que c'est difficile d'intéresser les gens à l'épargne. Mais attends un petit peu, parce que c'était encore plus difficile dans le temps. Parce que dans le temps, il y avait le bas de laine qui était jadis réservé aux paysans parce qu'il n'y avait pas d'endroit où placer leurs économies. Les banques étaient vraiment réservées aux riches bourgeois. La seule façon de garder ses économies, c'était de les garder à la maison et de les mettre dans un bas de laine ou dans autre chose, mais dans ce temps-là, il y en avait des bas de laine, puis de la laine, puis des bas. Donc, ils mettaient ça dans un bas de laine. Mais c'est en 1900 que le bas de laine devient commun au Québec et qu'une institution financière arrive pour ceux qui ne sont pas nécessairement dans la classe des gros bidous et qui veulent quand même économiser. Alors, Alphonse Desjardins, journaliste, propriétaire de journal, sténographe, qui est né d'une famille plutôt modeste et très nombreuse, peut-être puise ses inspirations de là, de ses origines, et crée une institution où plusieurs personnes pourraient mettre leurs biens en commun et s'entraider. Donc, la première caisse pop Desjardins est créée à Lévis en 1900. En 1906, la loi reconnaît enfin les caisses Desjardins, parce qu'avant, ils prenaient un risque. Dès 1920, par la suite, les caisses pop, qui deviennent de plus en plus pop, comptent 220 filières, dont 24 en Ontario et 9 aux États-Unis. Maintenant, environ 80% des citoyens du Québec possèdent un compte chez Desjardins et les actifs s'élèvent à 150 milliards de dollars canadiens en date de 2008. De nos jours, le bas de laine désigne des économies non placées ou une simple réserve d'argent. Si on dit par figure de style que certains ont la grosse tête, j'imagine qu'aujourd'hui, on pourrait dire que les plus nantis d'entre nous ont le gros pied. C'est tout pour Dans le champ lexical cette semaine. Nous terminerons encore l'émission sur de sages paroles qui nous viennent, cette fois-ci, de Anonyme Poitras. À partir d'un certain budget, la crédibilité n'est plus indispensable dans un film d'action.
Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue et Mathieu Charlebois. Les collaborateurs cette semaine, Pierre Duchesneau à la chanson thématique, Chloé Barry à la recherche et à la lecture historique, Sonny Duval à la chanson originale et Annie Rossano au Vox Pop. Pour respecter le budget de l'émission, personne n'a été payé, sauf moi.
Hey!
La semaine prochaine, dans le champ lexical, maison!